Merci beaucoup, Sylvain. Alors, nous passons maintenant à la table ronde. Puis-je demander à trois personnes au fond d'aller chercher les chaises qui sont dans la cuisine, dans le point café? On va les mettre ici. Et je demande aussi aux orateurs aujourd'hui de venir prendre place. Voilà. Je profite pendant l'installation de faire une annonce. Donc, le 2 avril cette année, il y aura la première journée du réseau des scientifiques évangéliques suisse romande. Donc, si cela vous intéresse, il y a les informations sur le site web du RSE. Et il y a Peter Clark qui organise avec d'autres membres du groupe de Suisse romande. Donc, le 2 avril, et le thème, c'est « Les limites de la science ». Et c'est à Noyon. Comment ça se dit? Nyon, en Suisse. Voilà. Et donc, je laisse la place à David qui va présider. Le 15.
Je teste.
Ça va vite, voilà. En fait, ce serait bien. Ce qui serait bien, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut chercher encore une chaise au loin ou deux chaises? Il y a deux chaises qui arrivent. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Allez, une chaise là. Alors, une table ronde n'est pas un moment de faire un discours. Ni de la part des intervenants, ni de la part de ceux qui posent des questions. Ça arrive des fois, mais donc on va essayer de faire le plus rapidement possible. On a plus que petite 20 minutes, mais enfin on va essayer de faire pour le mieux. Donc ça veut dire que si on a une question, soit on pose la question directement à un des intervenants, ou soit c'est une question plus générale, et dans ce cas-là, un, deux, trois, on verra, intervenants vont essayer de donner une courte réponse à chaque fois. Donc, je répète, ni un long discours de la part des intervenants, ni de la part de ceux qui posent des questions. Voilà. Première question. Rachel a un micro, donc on va pouvoir passer le micro à la personne. OK, deuxième question tout de suite. La première ne veut pas poser la première question.
Ma question s'adressait plutôt à M. Furfari. Dans son exposé, je me suis demandé à un moment donné si, par rapport à l'avenir, vous n'étiez pas trop positif par rapport aux capacités de l'homme à résoudre tous les problèmes qui se posent. Comment, du point de vue théologique et pratique, ça peut marcher. Enfin, je me demande si... Oui, si l'homme va vraiment réussir à maîtriser toutes les énergies, etc. Enfin, je pense que vous avez compris le sens de ma question.
C'est ce que je crois, mais l'avenir nous dira si je me trompe ou non. Dans tous les cas, sur base du passé, je crois que l'homme est parvenu à maîtriser les problèmes. Tous les problèmes auxquels l'homme a été confronté jusqu'à présent... Il les a maîtrisés. Le seul qui n'est pas encore maîtrisé, je parle de problèmes matériels, hein, rendons-nous bien, c'est celui du sida. Sur le sida, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de progrès. Dans les autres domaines, il y a des progrès partout. Alors, je ne dis pas que nous vivons dans un monde excellent, loin de moi. Nous vivons dans un monde de pêcheurs, et donc forcément, on est entre nous, je crois que c'est évident. Mais... du point de vue matériel, nous devons constater que les choses vont mieux. Parfois, on est un peu pisse-vinaigre, si vous me permettez. Hein. Il me semble que je vis mieux que mon père, que mon grand-père, et que toutes les générations précédentes, du point de vue matériel, parce que l'homme a su maîtriser certaines choses qu'il ne savait pas faire avant, à cause de la technologie, à cause de l'intelligence. N'oublions pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est créateur, il nous donne la capacité de créer. Tout ce que nous avons aujourd'hui vient de la création de l'homme. Il n'y a de richesse que ce que l'homme a mis dans les ressources que Dieu nous a données.
Merci. D'autres questions ?
J'aurais une question pour l'ensemble des intervenants. Nous avons abordé les problèmes d'énergie, les problèmes d'environnement, mais il y a un problème qui n'a pas été directement abordé, il a été simplement effleuré, c'est celui de la démographie. Et est-ce qu'en l'état actuel des choses, si on adopte une perspective malthusienne, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une limitation des naissances avec tout ce que cela peut comporter? Est-ce que dans une perspective chrétienne, on doit envisager ce problème de limitation des naissances comme une façon effectivement de préserver l'avenir, ou est-ce qu'au contraire, il faut placer notre confiance dans le Créateur et laisser faire?
Donc, qui aimerait répondre à cette question sur le plateau? Une, deux. Ok. Alors, on va commencer avec. Oui, tu as le micro.
J'ai le micro, c'est plus simple, on va gagner du temps.
Et puis on passe à Frédéric après. Okay.
Pensons à l'exemple de Jacob quand il a su rouler le roublard en ayant un troupeau qui grossissait plus que celui de son beau-père. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet épisode avec les plantes où il enlevait les corps des plantes, il a fait une sélection naturelle. Pourquoi nous ne devrions-nous pas faire une sélection naturelle? Pourquoi devons-nous nous interdire de faire ce genre de choses?
Frédéric?
Bon, j'ai pas très bien saisi, hein, mais.
En tout cas, la question, c'est les démographies, c'est ça?
Ouais. Non, oui, la question, je l'ai comprise.
Ah, ok, j'espère, d'accord. En tout cas. Okay.
La réponse, ah, oui. Non, je suis pas sûr.
Ah, d'accord. Ce soit pas. Ah. C'est ça que je reprécise, hein, la bon. Question. Bon.
Je commence un peu à comprendre. Alors. Oui, sur la démographie, en fait, l'expérience montre que toute société qui se développe et qui arrive à un certain niveau de confort, je vais le dire comme ça, fait moins d'enfants. C'est une donnée universelle, on pourrait dire. Et d'ailleurs, actuellement, les œuvres qui travaillent dans les pays en développement travaillent dans ce sens, c'est-à-dire pour l'éducation des populations, le fait de se développer aussi sur le plan économique, industriel, etc., etc., avec la perspective qu'une société plus développée fait moins d'enfants. Et donc, de toute façon, les projections démographiques sont très très claires. Il y a un ralentissement, j'allais dire naturel, de la croissance démographique au fur et à mesure que il y a un certain bien-être qui s'installe dans la société. C'est presque mathématique. Hein. On peut le vérifier. C'est assez facile.
La question par rapport à la démographie. Potentiellement, la planète peut certainement nourrir beaucoup plus que les 7 milliards que nous sommes actuellement. Quand on voit nos modes de consommation, quand on voit le potentiel de produits, de progrès technologiques qu'on a actuellement connus dans nos cartons et puis ceux inconnus, quand on voit les gains de productivité envisageables, y compris même en réduisant des intrants, en réduisant, enfin en améliorant les performances énergétiques, avec les histoires d'azote, etc., on peut. La France était extrêmement rurale. Aujourd'hui, on n'est plus que 6 ou 7% à vivre à la campagne. En imaginant que demain, on doive améliorer considérablement les ressources alimentaires de la France, on peut encore retourner dans les champs avec une main d'œuvre, etc. Enfin, ce qui n'est pas forcément un recul en termes de progrès, mais ça, à l'échelle de la France, à l'échelle de tous les pays dans lesquels il y a un potentiel absolument considérable. Alors, est-ce que c'est 15 milliards, est-ce que c'est 20 milliards? J'en sais rien. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. Mais c'est certainement de ces ordres-là, certainement.
Et merci.
L'autre question, c'est est-ce que
je réponds à combien de questions ?
Est-ce que non, mais l'autre question de la démographie, est-ce que c'est de notre ressort de limiter les décences ? C'est-à-dire, est-ce que dans la maîtrise de nos techniques, notamment de la fécondité, est-ce que on doit jouer à la colle à maillard et puis faire le plus de bébés qu'une femme puisse porter dans sa vie, ou est-ce que il est normal que, à titre au niveau d'un couple, au niveau d'une société, il y ait un effort volontariste pour limiter les naissances ? Ça, c'est une question éthique. Là, je n'ai pas d'élément de réponse.
Merci,
Lydia. C'est une question pour Pierre Norte. En fait, les modèles cosmologiques que vous nous avez montrés dans un exposé tout à fait passionnant, donc c'est sur les échelles très longues. Et habituellement, donc même si on dit que la date du retour du Seigneur n'est pas très précise, disons en général, on imagine difficilement peut-être encore 500 millions d'années, par exemple, pour le retour du Christ. Donc, quel est pour vous le statut de ces modèles cosmologiques ? Est-ce que c'est de la pure spéculation et que de toute façon Dieu coupera court, je dirais, à l'évolution ordinaire du monde ? Ou est-ce que ces modèles cosmologiques ont un intérêt autre, je dirais, que de la pure spéculation physique ou mathématique pour les chrétiens que vous êtes ?
Alors, c'est une question extrêmement difficile. Je pense que je suis incapable de répondre à ça, parce que effectivement, on a l'impression qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'évolution de l'univers tel qu'il est décrit par ces modèles et puis le scénario biblique de la fin du monde. Peut-être encore plus après la conférence de mon voisin, qui parle plutôt d'une restauration de la Terre que d'une destruction complète suivie d'un remplacement par une Terre d'une autre nature. Et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec sa démonstration, qui me paraît très convaincante, mais j'ai de la peine à faire coller ça avec les modèles cosmologiques. Bon, il faut bien se rendre compte que ces modèles sont basés sur une vision totalement matériel du monde, évidemment, que ces modèles ne font aucun cas d'une quelconque intervention de Dieu là-dedans, puisque par définition la science n'est pas apte à gérer ce genre d'intervention, bien sûr. Donc voilà, c'est le gros point d'interrogation. Ces modèles paraissent réalistes et raisonnables dans la mesure où ils correspondent assez bien à ce qu'on observe, parce qu'on peut observer dans le passé, donc l'astrophysique des extragalactiques est une machine à remonter le temps, donc on peut vérifier ce qui se passait dans le passé. Les arguments en faveur du scénario de Big Bang sont quand même assez forts. On peut même mesurer la température du fond de rayonnement fossile, comme on dit, qui est ici maintenant de 2,7 degrés, mais qui, pour des galaxies lointaines, peut atteindre 10 degrés. Ça, c'est mesuré, ça, n'est-ce pas? C'est un des arguments très, très forts en faveur du scénario du Big Bang. Maintenant, après, pour ce qui est du futur, eh bien, c'est forcément une extrapolation. Et puis là, l'intervention divine est évidemment hors du champ de la science, quoi. Donc, pour moi, c'est un immense point d'interrogation. Je vois pas très bien, vis-à-vis déjà, parce que là, il s'agit de scénario cosmologique, donc. C'est très lointain, mais comme je l'ai expliqué, il y a l'évolution du Soleil qui est aussi quelque chose d'extrêmement bien compris à quelques détails près. Disons, l'évolution stellaire est quand même assez bien maîtrisée maintenant. On sait que le Soleil a une durée de vie finie, même si elle est relativement longue. On sait que son rayon est en train d'augmenter. Il a augmenté déjà de l'ordre de, je sais pas, la luminosité a augmenté d'une trentaine de pourcents, je crois, depuis les tout débuts du système solaire. Donc cette tendance va continuer à long terme. Là aussi, la nouvelle Terre, comment est-ce qu'elle va se débrouiller? Est-ce qu'elle va continuer à tourner autour du Soleil, ou est-ce que c'est Dieu qui remplacera le Soleil? Enfin, c'est ce que suggère l'Apocalypse. J'en sais rien du tout. Voilà. Voilà. J'avoue mon incompétence pour cette question-là.
Voilà, c'est tout l'intérêt d'entendre à la fois des exposés scientifiques et bibliques. On va tous réfléchir là-dessus. Autre question ?
Oui, je voulais savoir, c'est une simple question. Par exemple, dans le ciel, je sais pas, moi je meurs à 25 ans. Est-ce que je verrai ma grand-mère qui est morte à 18 ans ou, enfin, je veux dire, dans le ciel, en fait, est-ce qu'il y a une... Comment on va se voir je ne sais pas si vous comprenez ma question.
C'est pour moi, oui. Ben, quand Jésus est ressuscité, Thomas a pu mettre la main sur les marques des clous de Jésus, et donc c'était le même corps. Votre grand-mère, si elle était convertie, elle sera sur la nouvelle terre. Et ben, si vous y êtes aussi, vous la reconnaîtrez, je pense. Il y a une continuité entre le corps que nous avons aujourd'hui et le corps ressuscité. Il y a une identité. Maintenant, il y a une large place aussi à la discontinuité. Il suffit de comparer le corps du bébé et le corps de l'adulte. C'est le même corps, mais en même temps, l'aspect est très, très différent. Et donc, il peut y avoir une grande... Tout en affirmant la continuité, on peut affirmer aussi qu'il peut y avoir une grande part de discontinuité entre notre corps actuel et notre corps ressuscité.
Merci. Une question au fond, à droite.
Donc, toujours pour M. Romerovski, est-ce que ça tendrait pas à penser que finalement, voilà, une personne décapitée resterait décapitée du fait que finalement, le Christ a gardé quand même ses stigmates? Comment comprendre ça finalement?
Alors, un corps décapité n'est pas un corps incorruptible. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, il est question de l'arbre de vie dont les feuilles vont servir à la guérison des peuples. Et donc, nous serons guéris sur la nouvelle terre de tous les maux, de toutes les souffrances, de toutes les infirmités que nous aurons connues sur cette terre. Et donc, la personne qui a été décapitée retrouvera sa tête.
Autre question aussi, oui. Ok, à droite là d'abord, et puis au fond après.
Oui, j'aurais une... Enfin, la réponse de Monsieur Fourfari tout à l'heure m'a posé question. Sur quoi vous basez-vous pour dire que actuellement on vit mieux, sachant que un certain nombre de rapports scientifiques pointent quand même que les générations naissantes sont globalement plus malades que les générations qui nous ont précédées, qu'actuellement le niveau de pauvreté atteint des sommets dans une grande partie du monde, que la famine, le chômage sont des questions auxquelles l'humanité n'a pas su faire face, et la famine, Dieu sait que ça dure depuis un moment. Et enfin, sur quoi vous basez-vous pour penser que on trouvera les solutions technologiques, sachant que se baser sur le passé, rien ne permet de dire que parce qu'on a été capable d'inventer telle ou telle chose, on sera capable de trouver solution à des problèmes purement physiques.
Ou bien on parle avec les sentiments, les tripes, ou bien on se base sur des chiffres. Et dans ce domaine, on ne peut réagir que si on mesure. Et il y a donc toute une série d'indicateurs. Les indicateurs existent bel et bien. Il y a plein de rapports qui publient des indicateurs régulièrement sur l'état du monde. Et tous les indicateurs sont positifs, sauf celui du sida. Les indicateurs sur la pauvreté sont positifs, sur la durée, l'espérance de vie sont positifs, sur la santé sont positifs, sur la qualité de l'eau. Pensez simplement, pourquoi y avait-il des épidémies dans le temps? Pourquoi y a-t-il une épidémie maintenant de choléra à Haïti? Et il n'y en a pas à Paris. Oui, globalement. C'est parce que justement, on est parvenu à mieux maîtriser le problème des égouts, le problème de la gestion de l'eau. L'eau aujourd'hui est beaucoup plus pire qu'elle ne l'était dans le passé. L'eau que vous buvez aujourd'hui à Paris est plus pure que l'eau que l'on buvait il y a 5 générations, 200 ans, 300 ans. Parce que aujourd'hui, tout est canalisé et l'eau est traitée. Dans le temps, ça ne l'était pas. Les égouts étaient dans la rue. Pensez aux mouches. Pensez à la malaria. Je crois que c'est une litanie fausse de croire que tout va mal. C'est faux. Les indicateurs sont tous positifs. Et c'est justement là, en tant que chrétien, qu'on doit avoir les yeux ouverts C'est justement parce que les choses vont mieux que les gens s'éloignent de Dieu. Les choses vont mieux. Là, ne nous basons pas sur simplement dire « Ah, il y a des pauvres en Afrique ». Mais avant, tout le monde était pauvre. Avant, tout le monde était pauvre. Avant, les gens mouraient de faim. Vous pensez qu'en Chine, la situation empire ou ça s'améliore? Avant, en Chine, les gens mangeaient un bol de riz pour survivre. Aujourd'hui, la Chine a complètement évolué. C'est ça, justement, qui fait son progrès. Je crois que ce que vous dites, c'est simplement ce que beaucoup de gens disent. Je vous en veux pas. C'est le rouleau compresseur. Mais c'est faux. Foncièrement faux.
Je pense que, oui, au fond, ce sera malheureusement la dernière question, parce qu'on arrive au bout de notre journée.
Ouais, donc je vous remercie pour la dernière question que je vous posais. En fait, un peu divisée en deux. La première question...
Mais il faut mettre le micro devant la... Soit c'est allumé, oui.
Tout le monde m'entend? Très
voilà,
bien.
C'est bon.
Donc la question, en fait, que je vous posais, un peu divisée en deux. La première partie de la question, je ne sais pas si... vous avez entendu, comme nous, qu'on prévoit une inversion des polarités. Je ne sais pas si c'est la Terre, quelque chose comme ça. Et donc, ma question est de savoir, si c'est vrai ce qu'on dit, est-ce qu'il y a une influence sur... est-ce que ça peut une influence sur notre vie, sur la vie humaine? Et la deuxième partie de la question, revient un peu sur les théories, que ce soit cosmologiques ou astrologiques, sur l'avenir, typiquement sur ce que les Mayas prévoient en 2012, et précisément au solstice d'hiver 2012, et même vérifié par les supercalculateurs qui ne sont pas loin de cette même date-là. D'un point de vue biblique, nous étant chrétiens, pour ma part, je ne sais pas comment répondre à ces personnes-là qui ont peut-être une crainte. D'après ce que les médias disent, d'après ce que les Mayas prévoient, d'après ce que les calculateurs prévoient également, est-ce que scientifiquement, en s'appuyant sur la Bible, on peut répondre et raisonner ces personnes-là? Voilà, c'est vrai, deux volets de ma question.
Est-ce que je peux demander juste parce que simplement Pierre répond rapidement. Et puis, Étienne, tu peux ajouter quelque chose après, sur le vue biblique. Okay.
La première question, c'est l'inversion de polarité des pôles magnétiques, si j'ai bien compris, ouais. Sur Terre, oui. Et puis la seconde, l'histoire du calendrier Maya. Alors, l'inversion de polarité, bon, c'est clair que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des inversions de polarité du champ magnétique terrestre. Qui ont impliqué une disparition momentanée du champ magnétique, semble-t-il. Alors, bien sûr, le champ magnétique terrestre est très utile pour protéger l'atmosphère et donc aussi les êtres vivants des rayons cosmiques qui sont en grande partie déviés par ce qu'on appelle la magnétosphère, c'est-à-dire le champ magnétique terrestre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des aurores boréales, par exemple, quand il y a une éruption sur le Soleil qui envoie des particules très, très énergétiques dans notre direction, enfin comme dans toutes les autres directions d'ailleurs, ces particules sont déviées. Le champ magnétique terrestre sert en quelque sorte de bouclier. Alors, s'il disparaît, c'est clair que c'est pas très favorable à la vie. Ça ne veut pas dire non plus que la vie va être complètement exterminée sur la Terre du tout. Maintenant, ces inversions de polarité ont lieu sur des échelles de temps géologiques. C'est sur des millions d'années. Il n'y a aucune raison de penser qu'une telle inversion va avoir lieu de manière imminente. Peut-être dans un million d'années, peut-être... je ne suis pas géophysicien, donc je ne peux pas vous dire... Je n'ai pas en tête les chiffres. On peut imaginer qu'il y aura une inversion à nouveau dans l'histoire de la Terre, mais je ne sais pas à quelle échéance. Mais en tout cas, ce n'est pas demain, ni dans un siècle, ni dans un millénaire, je pense. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, à mon avis, là-dessus. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Maintenant, l'histoire du calendrier Maya. Alors, c'est, bon, y a un film qui a été fait, etc. Les Mayas avaient un excellent calendrier qui comportait des cycles courts et des cycles longs. Et apparemment, cette histoire de 2012, c'est simplement la fin d'un cycle, mais ça ne veut pas dire du tout que ça représente la fin du monde, même dans la mythologie maya. Même pour les Mayas, ben voilà, bon, c'est la fin d'un cycle, puis le début d'un suivant, c'est tout. Et cette histoire selon laquelle il devrait y avoir une fin du monde à ce moment-là, fin 2012, est passablement artificielle, en fait. On a fait tout un foin là autour, mais voilà, c'est vraiment un truc médiatique, si j'ose dire, auquel il faut accorder aucune importance, en fait.
Si je sors de conclusion face à ça.
Je sors du champ de mes compétences, mais combien de fins du monde j'ai entendu parler depuis que je suis né. Je veux dire, il y a eu les affaires de Nostradamus et puis de Paco Rabanne, et puis on a eu droit à peu près à tout. Les témoins de Jéhovah, les adventistes aussi, qui ont. J'observe simplement que la parole de Dieu paraît plus sûre. Ce qui me réconforte, que toutes ces prévisions, puisqu'elles ont toutes été démenties, et je pense que ça devrait nous apprendre, nous, en tant que croyants, à être plus prudents que les autres. Je vous invite à écouter France Info, parce qu'il y a une petite rubrique très intéressante sur les légendes urbaines. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée, et qui montre comment, sur le plan médiatique, on peut faire un bruit ou du buzz avec des choses qui, en fait, à la base, sont assez ou complètement fausses ou trafiquées, oui, manipulées. Et je pense que c'est un phénomène qui ne va qu'en s'accroissant et que nous devrions être de ceux qui savent garder la tête froide. Voilà ce que j'ai à dire.
Merci. Merci. Juste une petite annonce pour dire que la librairie reste ouverte à la fin de la réunion et ensuite, pour clore ce moment, j'aimerais prier avec vous à la fin de cette journée. Seigneur, nous avons entendu tellement de choses. Peut-être certaines choses ont pu nous bousculer dans nos opinions, dans notre façon de comprendre ce monde où tu nous as placés. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu nous donnes à la fois de réfléchir de toutes nos forces, de nous instruire, de savoir bien prendre le temps de lire et chercher à comprendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, vivre notre relation avec toi en t'aimant de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre force. Seigneur, fais en sorte que nous soyons vraiment toujours vigilants en t'attendant, attendant le retour de ton Fils Jésus. Et en même temps, de savoir œuvrer pour le bien des personnes que tu places autour de nous, que ce soit proche ou au loin. Seigneur, nous voulons surtout que notre motivation dans cette recherche de connaissance, cette recherche de compréhension de ta parole, cette recherche d'action humanitaire ou écologique, ce que nous voulons surtout en tant que chrétiens, c'est que nous puissions te glorifier dans notre pensée et dans notre action. Nous te remercions pour cette journée. Nous te demandons de raccompagner chacun à la maison. Nous te demandons aussi que tu puisses aider le comité de RSE à bien préparer les suites de cette rencontre et la préparation d'une journée l'année prochaine. À moins que tu décides, Seigneur, que c'est fini et que tu mettes fin à ce monde actuel et que tu reviennes pour chercher les tiens. Nous nous remettons à toi, au nom de Jésus. Amen.
Merci. Excuse-moi.
J'aimerais juste prendre cette occasion donc de remercier tous les orateurs aujourd'hui. On peut les applaudir encore. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont participé à cette journée, surtout nos deux techniciens là-haut. Merci aussi à l'église Saint-Michaels qui nous a accueillis aujourd'hui. Et merci à vous d'être venus, certains de très loin. Donc, les interventions ont été enregistrées. Ils seront disponibles sur le site web du RSE dans quelques jours. Et Pour ceux qui n'ont pas encore rempli le bulletin pour devenir associé du RSE, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire avant de partir, mais vous pouvez aussi le faire sur le site web. Avant de partir, merci de nous donner votre badge. Comme ça, on n'a pas besoin de racheter pour l'année prochaine. Et dernière annonce importante, donc l'année prochaine, la journée 2012 sera le 21 janvier à Paris sur le thème « Perspective sur l'origine de l'humanité ». Merci.